Bonjour à tous, Ludovic Malo, vous êtes sur France Liberté. Mon invité aujourd'hui est Marc Henry. Marc Henry est ingénieur chimiste, doctoresse sciences, habilité à diriger des recherches et professeur des universités. Il est professeur émérite depuis septembre 2020. Il a publié environ 160 articles dans des revues scientifiques avec comité de lecture, comptabilisant environ 12 000 citations. En tant que chercheur, vous essayez de comprendre l'eau sous tous ses aspects physiques, chimiques, biologiques, en relation avec les phénomènes électromagnétiques, mais également historien des sciences et épistémologue, ainsi que philosophe tentant de comprendre l'émergence du phénomène de conscience en relation avec la physique quantique. Marc-Henri, vous êtes par ailleurs lauréat du prix Orvillers en 2019 et du prix Yves Lasnet en 2019 pour sa recherche scientifique sur l'homéopathie et les très hautes dilutions. Vous avez écrit plusieurs livres, de l'information à l'exformation, aux éditions Nature d'eau en 2015, L'eau et la physique quantique vers une révolution de la médecine en 2016, L'eau qui nous relie, coécrit avec Rodolphe Forget en 2018 aux éditions Osmose, L'homéopathie, la physique et la chimie des hautes dilutions en 2019 aux éditions Nature au Kant. Et enfin, L'eau morphogénique, santé, information et champ de conscience en 2020 aux éditions d'Angle. Marc-Henri, bienvenue à France Liberté.
Merci. Bonjour à tous.
Avant de poursuivre, partagez maintenant cet épisode sur les réseaux sociaux et via les plateformes de messagerie. Et très important, abonnez-vous maintenant à la chaîne YouTube de France Liberté et inscrivez-vous sur notre liste de contacts sur franceliberté.tv. Pour recevoir les notifications des nouveaux interviews. Et enfin, très important aussi, rejoignez le canal de France Liberté sur Telegram qui s'affiche à l'écran. Alors, Marc-Henri, c'est un plaisir de vous avoir en interview. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser de près à l'eau et son formidable potentiel médical?
C'est que quand on veut faire une carrière en sciences, il faut faire ce qu'on appelle un doctorat. Donc, pour faire un doctorat, il faut avoir un directeur de thèse. C'est lui qui choisit en fait les sujets. Et mon directeur de thèse m'avait chargé d'étudier ce qui se passait lorsqu'on dissolvait des substances dans l'eau, comprendre comment elles étaient transformées par l'eau. Donc, j'ai travaillé pendant des années pour soutenir mon doctorat, que j'ai soutenu en 88. Et en 88, donc, j'étais un spécialiste de l'eau, mais pas de l'eau, de choses qui étaient en solution dans l'eau. C'est-à-dire, je connaissais très bien toute la chimie, toute la classification périodique, comment les espèces se transformaient quand on les mettait dans l'eau. Et si vous en souvenez, en 1988, c'est une année qui a un petit peu marqué la science. Parce que c'était l'année où est paru l'article de Jacques Benveniste dans une très grande revue scientifique, qui était Nature, qui prétendait qu'une fois qu'on avait dilué une substance au-delà du mur d'Avogadro, il y avait encore un effet biologique. Donc on n'avait plus la matière, mais on avait toujours l'effet. Et comme le composant majoritaire, c'était l'eau, on m'avait demandé à l'époque d'expliquer ce qui se passait, parce que j'étais un spécialiste de l'eau. Et évidemment, j'ai été incapable, parce que c'était incompréhensible. Mais par contre, ça m'a intéressé. J'ai fait confiance à Jacques Benveniste. Je me suis dit, c'est un bon chercheur. S'il a trouvé ça, c'est qu'il doit y avoir une explication. Donc, je me suis intéressé à l'eau, non plus par ses propriétés chimiques, c'est-à-dire sa capacité à dissoudre d'autres espèces, mais pour ce qu'elle est en elle-même. Et c'est là où j'ai découvert que c'était une substance que les physiciens ne connaissaient en fait très mal, on avait beaucoup de mal à expliquer ses propriétés, en particulier pourquoi elle se dilate lorsqu'on baisse la température. C'est complètement étrange. Normalement, quand vous baissez la température, vous devez vous contracter. Et là, il y avait une dilatation et il fallait expliquer ça. Paradoxalement, il n'y avait pas beaucoup d'explications dans la littérature. Donc, j'ai travaillé en physique pendant des années. Puis après, ça m'a amené évidemment en biologie, puisque les hautes dilutions ont des effets biologiques via une technique qui s'appelle l'homéopathie. Et j'ai finalement trouvé une solution en 2012, qui en fait avait déjà été publiée en 88 par des physiciens italiens. Je l'ai reprise, je l'ai reformulée, et aujourd'hui, voilà, J'étudie l'eau, bien sûr, pour ses capacités chimiques extraordinaires, mais aussi pour sa caractéristique, ses caractéristiques, que c'est la substance la plus abondante dans l'univers, et c'est la substance qui procure la vie. Donc, des choses qui sont intéressantes à étudier. Comment une molécule aussi simple peut donner la vie? Et c'est là où, si vous ne faites pas de physique quantique, ben vous ne pouvez pas comprendre. Parce que la formule de l'eau est très simple, H2O, mais ça, c'est la matière. Si vous passez en physique quantique, c'est-à-dire en vibration, l'eau a un spectre de vibration extrêmement complexe, et c'est grâce à cette complexité vibrationnelle qu'on peut avoir toutes les propriétés magiques de cette substance.
Alors, j'aimerais rappeler que vous avez été ex-directeur du laboratoire de chimie moléculaire, une unité mixte de recherche du CNRS. Par ailleurs, vous avez travaillé avec le professeur Luc Montagnier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le cœur de ces recherches avec le professeur Montagnier?
Alors, pour ce qui concerne Luc Montagnier, moi je travaillais donc à comprendre l'homéopathie, les hautes dilutions depuis 88, Jacques Benveniste donc. Et quand Jacques Benveniste est mort en 2004, il se trouve que c'est Luc Montagnier qui a repris les recherches de Jacques Benveniste. Et donc, naturellement, on s'est rencontrés pour faire la suite, quoi. Et donc, j'ai connu Luc Montagnier après son prix Nobel de 2008. Il a commencé à s'intéresser à la mémoire de l'eau ou à la dilution. Et là, on a démarré une collaboration scientifique qui permettait de. Moi, j'essayais de comprendre les expériences que lui réalisait. Parce que ces expériences de Luc Montagnier qui consistaient à reproduire un ADN uniquement avec un signal électromagnétique mémorisé dans l'eau étaient difficiles à comprendre par la communauté scientifique. Donc mon rôle était de jouer l'interface entre Luc Montagnier, qui était biologiste, et la communauté scientifique, qui était très sceptique sur ses résultats. Et moi, je les défendais, je donnais des explications théoriques, physiques, pour expliquer que ce qu'avait montré Luc Montagnier n'était pas du tout fantastique. Simplement, il fallait prendre en compte les données qu'on a aujourd'hui de la science, de la physique quantique, et à ce moment-là, tout pouvait s'expliquer de manière naturelle.
Alors, juste, on va revenir sur l'homéopathie, bien entendu, et différents sujets. On va parler de la physique quantique, l'eau morphogénique, la conscience, l'électromagnétisme, l'homéopathie et l'agent infectieux qui s'affiche là maintenant à l'écran. J'aimerais juste revenir sur le professeur Luc Montagnier. C'était un Nobel de médecine, c'est lui qui a découvert le sida. Comment se fait-il que les médias dominants n'ont pas immédiatement reporté son décès et qu'ils ne lui ont pas rendu hommage? J'ai été très, très choqué
Tout le monde
par ça.
a été choqué. Je ne connais pas une personne qui n'ait pas été choquée par ce silence médiatique. Alors, il y a deux raisons. La première, c'est que Luc Montagnier était assez, disons, discret. Il n'aimait pas beaucoup qu'on parle de lui. C'était un homme assez modeste, finalement. Et bon, c'est vrai qu'il n'a pas communiqué, enfin, du moins, l'entourage n'a pas communiqué de façon très importante. Mais je pense que la véritable raison, c'est que après son prix Nobel de 2008, quand il a repris les travaux sur la mémoire de l'eau, donc, il s'est discrédité de sa communauté. C'est-à-dire qu'il y a eu une vingtaine ou une quarantaine de prix Nobel qui ont protesté. Et quand on proteste, donc, il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise avec cette idée de mémoire de l'eau. On l'a bien vu d'ailleurs avec, par exemple, l'hommage qu'a rendu Didier Raoult à Luc Montagnier. Il a parlé que de la partie, disons, scientifiquement correcte du sida. Il n'a pas du tout parlé des recherches qu'a pris Luc Montagnier après 2012, sachant que si Luc Montagnier passe à la postérité, ce sera sûrement pas pour ses recherches sur le sida, mais bien pour ses recherches sur la mémoire de l'eau, la possibilité qu'on peut mémoriser dans l'eau un signal électromagnétique. Parce que derrière cette possibilité se cache la médecine de demain, une médecine qui sera beaucoup plus soft, beaucoup moins toxique que les produits chimiques qu'on développe actuellement pour traiter tout un ensemble de pathologies. Donc ça dérange beaucoup. Et le fait de lui rendre hommage officiellement aurait signifié que finalement on valide cette idée de mémoire de loup. Et ça, c'est pas encore, je travaille pour qu'on le fasse, mais ça bloque encore aussi bien à l'Académie des sciences que dans les grands scientifiques, reste toujours très discret sur cette partie du travail de Luc Montagnier, qui pour moi est fondamentale, mais qui est perçue comme sulfureuse. Et puis après, il y a eu toutes ces positions sur l'agent infectieux, ça, je pense que vous avez suivi. Il avait toujours des positions qui étaient un petit peu en désaccord avec la pensée unique, et ça lui a valu, là aussi, beaucoup d'inimitié. Bon, voilà, je pense, les raisons qui ont fait qu'on a passé sous silence. Par contre, j'ai été très ému par le nombre de gens qui se sont retrouvés au Père-Lachaise pour lui rendre hommage, parce que là, on voyait bien qu'il était en fait très populaire, pas forcément dans son milieu d'origine, la science, mais auprès des gens simples, la population, quoi. C'était un homme du peuple. Et ça, moi, je trouvais que c'était un très bel hommage qu'on lui a rendu, le nombre de personnes qui sont allées à son enterrement.
Alors, on va passer à d'autres thèmes plus en détail, mais en substance, puisqu'on parle de l'agent infectieux, quelle était la thèse du professeur Luc Montagnier ?
D'une part, qu'il était fabriqué, c'est un virus synthétique, c'est-à-dire un agent qui a été fabriqué dans un laboratoire de recherche. Donc ça, je pense qu'aujourd'hui, à l'époque, quand il a sorti cette idée, tout le monde lui est tombé dessus, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est une idée qui a fait son chemin. On a compris qu'il y avait des manipulations, qu'on était capable, grâce à ce fameux outil Cas9 CRISPR, de vraiment bidouiller l'ADN. On est capable de faire des choses très jolies, aussi bien pour soigner que pour faire des choses moins sympathiques, c'est-à-dire changer l'ADN d'une personne, ce qui peut avoir des conséquences énormes. On sait le faire aujourd'hui de façon très propre, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années où on utilisait encore des canons à gènes pour modifier l'ADN. Là, avec le nouvel outil qui a été trouvé, on a vraiment quelque chose qui tient la route et qui permet donc de fabriquer des chimères donc en laboratoire. Donc ça, c'était sa thèse, que le virus avait une origine synthétique. Et puis, il était aussi persuadé que toute cette... tout ce qu'on a fait, disons, les mesures qui étaient prises autour de cet agent infectieux étaient disproportionnées par rapport à ce que c'était. Je veux dire, il y a des virus qui sont autrement plus méchants et virulents que celui qu'on nous a vendu. Donc voilà.
Donc, on a bien compris que la conclusion qu'en a tirée le professeur Luc Montagnier, c'est que ce virus est d'origine
humaine.
Cet agent infectieux est d'origine. C'est de la bio-ingénierie, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est des outils, c'est la conséquence du développement d'outils génétiques pour des tas d'applications, en particulier les OGM. Le développement a été accéléré par ces nouveaux outils qui sont apparus dans les années 2000.
Alors en fait, bon, il y a le côté médical, mais il y a le côté aussi sociétal et les libertés. Cet agent infectieux a été utilisé pour réduire considérablement nos libertés. On voit qu'il y a un programme d'identification numérique européen qui est en train de se mettre en place. Je pense qu'ils vont essayer de pousser ça à la fin de l'année. On n'est pas à l'abri de nouvelles vagues, de nouveaux variants. On a l'impression d'être dans une guerre bioterroriste. Qu'est-ce que vous en pensez?
Alors oui, ça c'est ce que certaines personnes veulent nous faire croire. Moi, je suis scientifique, donc les problèmes politiques, ce n'est pas trop mon truc. Par contre, ce que je sais, c'est que les virus ont existé depuis que la vie existe. Donc, on a toujours vécu avec des virus. Et même, si on analyse ça froidement et scientifiquement, un virus est là pour faire évoluer les espèces. Surtout les rétrovirus qui ont cette caractéristique de pouvoir insérer leur génome dans un autre génome. Et ça veut dire que c'est grâce aux virus qu'on a évolué depuis des milliards d'années. Donc, tout d'un coup, découvrir que c'est des agents méchants, Non, on a quand même 100 ans d'expérience de traitement de maladies virales et ça n'a jamais posé de problème. Et là, tout d'un coup, en quelques mois, on se retrouve démunis. On nous explique qu'il faut prendre des mesures qui datent du Moyen Âge, alors que normalement, on a une science qui devrait permettre de passer ces caps difficiles sans trop de problèmes. Et d'ailleurs, moi, je me rappelle très bien quand moi, j'ai pas eu la maladie, hein. Je n'ai jamais fait de geste barrière. J'ai toujours vécu normalement durant toute cette période. Et par contre, en mars 2020, j'ai fait un article scientifique où j'ai décrit les propriétés d'une molécule qui s'appelle le bleu de méthylène, qui permet de lutter très bien contre les infections virales. Et j'en ai pris pendant toute cette durée et je m'en porte très bien. C'est publié en 2020. Pourquoi?
Bleu méthylène, c'est un produit qu'on trouve en pharmacie, c'est quoi exactement?
Alors, on le trouvait en pharmacie il y a une dizaine d'années, et puis ça a été retiré, je ne sais toujours pas pourquoi, parce que c'est un produit qui n'est pas cher et très efficace. Donc, ça remet probablement en cause d'autres molécules beaucoup plus chères. Et par contre, c'est un produit qui est très utilisé dans l'armée. L'armée en fait des stocks parce que c'est le seul produit qui vous permet de survivre en cas d'attaque chimique. Vous savez, il y a des bombes qui sont on vaporise des aérosols chimiques. Et le bleu de méthylène est quasiment la seule substance qui est capable de faire survivre les soldats lors d'une attaque chimique. Donc l'armée en dispose de grands stocks et hélas, ce n'est plus accessible en pharmacie, ou du moins, il faut trouver un pharmacien qui accepte de le commander et de vous le faire en gélule. Quelques-uns y acceptent, mais la majorité sont devenus des boutiquiers, c'est-à-dire ils ne sont même plus capables de commander un produit qui n'est pas disponible sous forme de boîte.
Alors, on va retourner sur les différents sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Vous vouliez parler de physique quantique. Qu'est-ce qu'il y a d'important à retenir pour nos auditeurs dans le contexte actuel?
Il y a plusieurs choses. Par exemple, dans le contexte qu'on a vient de vivre là, c'est-à-dire l'élection présidentielle 2022, nous avons appliqué une logique binaire. Le deuxième tour de l'élection, vous êtes avec deux choix exclusifs. Ceux qui, par exemple, qui, comme moi, n'ont pas voté, parce que je refusais le choix Macron, je refusais le choix Marine Le Pen, on n'a pas les moyens de s'exprimer. Donc ça, ce n'est pas naturel. La nature, elle ne fonctionne pas comme ça, hein. La nature, quand on doit vivre, il y a toujours forcément ce qu'on appelle une logique à multivaleur. Et cette logique à multivaleur, c'est bien sûr oui, non, mais ça peut être aussi oui et non, ou oui ou non, à la fois. Et donc, ça, c'est la logique de la physique quantique. Ça a été la grande découverte des années 1930, c'est que la nature obéissait à une logique où on pouvait être à la fois une chose et son contraire. Et cette logique, c'est la logique de la nature, on devrait la retrouver à tous les niveaux de la vie sociale et politique. Donc, par exemple, moi, je milite pour un mode d'élection, je ne veux pas empêcher la démocratie, hein, mais il y a des modes d'élection où on pourrait mettre en place cette logique à multivaleur d'inspiration quantique, et à ce moment-là, on élirait quelqu'un, non pas par dépit, mais parce qu'il rassemble effectivement sur un ensemble de plusieurs choix, il correspond à un optimum. Pourquoi on ne le fait pas? Ben c'est très bizarre. L'autre chose que j'ai découvert avec la physique quantique, c'est mon travail sur l'eau. C'est-à-dire que si je veux comprendre pourquoi l'eau augmente de volume quand je refroidis, c'est très surprenant. Et là, ce n'est plus du tout surprenant si vous faites de la physique quantique. C'est-à-dire, la physique quantique vous permet d'expliquer cette anomalie. Et donc, ça prouve aussi que l'eau est une substance qui fonctionne grâce à la physique quantique. Et quand après, on vous apprend que vous êtes fait à 99% de molécules d'eau, ben, ça peut peut-être dire aussi que la physique quantique, c'est important pour vous, en tant qu'être vivant et en tant que malade potentiel, être en bonne santé, c'est aussi savoir boire une eau de bonne qualité, savoir se nourrir de bonne façon, et tout ça va se retrouver justifié par les lois de la physique quantique, d'où mon travail de les vulgariser et d'expliquer aux gens que, bien sûr, on peut faire des théories mathématiques là derrière. Beaucoup de gens pensent que la physique quantique, c'est que des maths. Mais non, il y a en fait beaucoup d'applications pratiques. On n'a pas besoin, c'est de la même façon que vous n'avez pas besoin de savoir comment fonctionne un moteur quand vous conduisez une voiture. Vous pouvez utiliser la physique quantique sans savoir comment ça fonctionne dans les détails mathématiques. Et ça, bon, bah, c'est tout mon travail d'expliquer ça. Puis ça nous amène de l'eau jusqu'à la conscience. Que la conscience aussi, c'est un des grands mystères, un des grands domaines où la science est encore un petit peu ennuyée, comme avec l'eau. Et là aussi, la physique quantique nous amène des clés très intéressantes de décodage.
On parlait tout à l'heure du professeur Montagnier et ses 40 prix Nobel qui remettaient en question ces découvertes. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on est vraiment dans un cloisonnement entre la biologie et la physique quantique, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dogmatisme pour empêcher les connaissances et les passerelles et l'information de circuler?
Non, ce n'est pas ma position. Moi, je suis plus sur la paléontologie. Il y a ce que j'appelle les idées fossiles. Et c'est des idées fossiles qui empoisonnent l'enseignement et la recherche. Bon, parce qu'il faut savoir que j'ai quand même enseigné pendant 27 ans à l'université de Strasbourg. Et des fois, j'ai dû enseigner des choses que je savais pertinemment être fausses. Des fossiles, c'est-à-dire des trucs que la science a mis en évidence au cours du temps, mais qu'aujourd'hui, on sait très bien que ça n'a plus lieu d'être. On ne devrait plus enseigner ça. Et ces idées-là, qui sont fossilisantes, elles rigidifient, elles empêchent les nouvelles idées d'apparaître. Et je pense que c'est un peu ça qui s'est passé, c'est qu'on a découvert la physique quantique, en fait, en allant à l'échelle de l'atome. Et si vous restez à l'échelle d'un être vivant, enfin, de vous et de moi, on n'a pas besoin de la physique quantique. Elle n'apparaît que si je vais à l'atome. Mais voilà le problème, c'est qu'une fois qu'on est allé à l'atome, on veut expliquer l'atome, on n'y arrive. Et après, on va se poser la question, bon, ben maintenant qu'on a remis de la stabilité dans l'atome, à quelle échelle on doit repasser sur l'ancien mode, celui que nous, on connaît dans la vie de tous les jours. Et la question, elle avait été, enfin, la réponse avait été très troublante, c'est qu'il n'y a pas d'échelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir à partir de quand on doit arrêter d'appliquer les lois probabilistes de la physique quantique et passer aux lois déterministes de l'équation de Newton. Et en fait, la réponse, elle est très simple, c'est que la physique quantique, en fait, s'applique à toutes les échelles, aussi bien à l'atome que pour une galaxie. On n'a pas cette limite, et c'est cette idée-là, que la physique quantique est valable à toutes les échelles, qui a du mal à être acceptée par une certaine communauté scientifique qui reste dans l'infiniment petit, bon, essentiellement des physiciens, et qui défendent l'idée que dès qu'on quitte l'infiniment petit, on n'a plus les lois de la physique quantique, mais d'autres lois, qui sont celles qu'on avait découvertes après Galilée au XVIIIe siècle. Et là, on oublie simplement que la physique quantique, ce qu'on appelle des états cohérents, permet de retrouver le déterminisme alors qu'on est avec du probabilisme à la base. Donc, c'est juste une question d'éducation. En fait. Il faut vulgariser ça et peut-être qu'à ce moment-là, les mentalités évolueront.
Alors, vous parliez d'idées fossiles. Vous pouvez nous donner quelques exemples?
Alors, ben, les idées fossiles, la meilleure exemple qu'on ait, c'est l'entropie. Essayez de parler d'entropie à quelqu'un. Oui, vous allez voir que c'est tout de suite un terme qui fuse. L'entropie, c'est le désordre. Voilà. On va vous dire, grosso modo, alors que pas du tout. L'entropie, c'est ce qui permet de donner la vie. C'est parce qu'on a des flux d'entropie qu'on est vivant et qu'on peut se complexifier. Ça, c'est tous les travaux d'Ilia Prigogine, de l'école belge, de la thermodynamique des processus irréversibles. Donc, voilà le genre de choses qu'on devrait évacuer de la science. L'entropie ne mesure et qu'une propriété, d'ailleurs, beaucoup plus importante que l'énergie, qui n'a quasiment aucun intérêt. Et c'est exactement l'inverse qu'on fait, parce que, historiquement, on a découvert l'énergie avant l'entropie. Voilà, et donc, le simple fait d'avoir cet ordre historique nous perturbe complètement dans la compréhension des phénomènes. Donc ça, c'est un exemple. Il y a aussi les forces qui existent à distance, il y a des tas de concepts comme ça qu'il faut.
Est-ce que c'est des concepts ou des théories?
Ben, c'est les deux, hein. C'est-à-dire, c'est des concepts qui ensuite vont donner naissance à des théories.
Donc, ce sont des théories qui ne tiennent pas la route, qui sont fausses, c'est bien
C'est pas
ça?
qu'elles ne tiennent pas la route, c'est qu'elles ont un domaine de validité et qu'on a des théories qui ont des domaines de validité plus larges. Et donc, c'est toujours pareil, c'est-à-dire, le cerveau, il aime ce qui est répétitif et toujours le même. Donc, quand vous avez une théorie qui est ancienne et qui a été travaillée, par exemple, on va prendre une théorie qui est très bonne, hein, c'est la théorie de Newton. La théorie selon laquelle, chaque fois que j'ai une masse et une accélération, j'ai une force. Donc, c'est une très bonne théorie, sauf qu'on sait qu'elle est fausse. Mais elle est fausse parce que lorsqu'on va à petite échelle, elle ne s'applique plus tout à fait. Mais par contre, dans un certain domaine de validité, elle est utile. Mais nous, ce qu'on veut, ce n'est pas bien sûr des théories utiles, mais on veut aussi des théories qui soient les plus générales possibles. Et c'est là où on a cette physique quantique qui englobe la loi de Newton comme un cas particulier de système où on a une cohérence et qui fait qu'on suit ces lois déterministes. Donc, on en est là, la physique de la cohérence, on la découvre, mais elle n'est pas encore admise de façon universelle comme elle devrait l'être.
Est-ce que vous voulez rajouter des éléments sur la physique quantique?
Oui, juste une observation pour vous montrer la puissance de ce qu'on appelle la cohérence. C'est si vous allez à Tchernobyl, lorsqu'il y a eu l'accident de Tchernobyl en 86, vous savez, tout le monde a dit, oh là là, ça va être une catastrophe. On a empêché les gens d'aller. D'abord, on les a fait quitter leur maison, puis on a tout fermé pour pas qu'on prédisait que ça allait être un désert. Et aujourd'hui, si vous allez à Tchernobyl, ce n'est pas du tout un désert. La nature a repris tous ses droits. Et ce qui est pire, c'est que si vous mettez un compteur GGR, c'est-à-dire quelque chose qui mesure la radioactivité, vous avez des taux de radioactivité qui sont énormes. Donc comment vous pouvez avoir des taux de radioactivité qui sont énormes et une nature florissante, sans cancer, sans modification génétique? Ça doit vous poser des questions, ça, en tant que scientifique. Parce que les gens qui y vont le voient bien que la vie explose à Tchernobyl et que la radioactivité est théoriquement invivable. Ben, ça veut dire que la vie sait s'adapter à cette radioactivité. Et là encore, c'est une vieille théorie qu'on peut remettre grâce à la physique quantique en état de la faire renaître. C'est cette idée qu'on peut faire des transmutations nucléaires à basse énergie. C'est-à-dire, dans une cellule, vous pouvez transmuter des éléments comme on le fait dans des accélérateurs de particules. Voilà une application des états cohérents qui est extrêmement importante parce que ça va nous permettre de gérer les déchets nucléaires, peut-être de développer des bactéries qui vont transmuter nos déchets radioactifs en des choses qui sont moins toxiques. Donc, tout ça, ces grands problèmes de société qu'on rencontre sont liés, pour moi, au fait qu'on ne prend pas en compte pleinement cette physique quantique dans toute son application et toute sa généralité. Et si on le faisait, ben on aurait une vie qui serait bien meilleure.
Très intéressant. Vous vouliez parler de l'homorphogénique. Qu'est-ce que...
Alors, l'homorphogénique, c'est un terme que j'ai introduit dans les années 2010. Parce qu'on a un petit problème. Quand vous vous regardez dans un miroir, vous ne voyez pas de l'eau. Vous voyez la peau, vous voyez un être, pas vous, mais vous ne voyez pas un verre d'eau. Et lorsqu'on calcule, on prend la composition chimique de ce que vous êtes et qu'on fait le calcul que tout scientifique doit faire, c'est-à-dire ne pas regarder les masses, mais regarder ce qu'on appelle les nombres de mol, les nombres d'objets, et qu'on calcule combien il y a de molécules d'eau, combien il y a de protéines, combien il y a d'ions sodium, combien il y a de potassium. Tout ça, c'est des données biologiques qui sont faciles à obtenir, elles sont connues. Mais vous apercevez que vous êtes fait à 99% d'eau. Voilà, donc 89% d'eau, vous en gardez, et ça n'apparaît pas sous la forme de ce qu'on appelle l'eau, quand vous dites l'eau aux gens, c'est l'eau liquide. D'où l'idée qu'on va accoler un autre terme à l'eau pour parler qu'on parle bien de l'eau, mais de l'eau qui contient quelque chose. Et pourquoi morphogénique? Parce que si vous avez fait un peu de grec, morphos, c'est la forme, et génos, c'est je crée. Donc, quand vous dites eau morphogénique, vous dites eau qui crée la forme. Et ça, c'est vrai. C'est que si je vous prends, vous, et que je vous déshydrate, je vous enlève les 89% de molécules d'eau qui vous constituent, qu'est-ce qu'on récupère? On récupère un petit tas de cendres qui n'a plus aucune forme. Donc, finalement, j'avais une forme, j'enlève l'eau, je récupère quelque chose qui n'a plus de forme, ça veut bien dire que toute la forme venait de l'eau, de l'hydratation. Et ça, en fait, c'est quelque chose qui est très général. Dès que vous avez de l'eau quelque part, vous avez des formes. Par exemple, vous voyez que les protéines, une protéine, si vous ne la mettez pas dans l'eau, elle est ce qu'on appelle dénaturée. Elle n'a pas de forme, elle n'a pas d'activité. Dès que vous mettez de l'eau, ça s'appelle l'interaction hydrophobe, plop, 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 elle se replie, elle prend une forme, et à ce moment-là, elle redevient active. Ce qui fait que vous pouvez avoir des objets qui sont faits d'eau, mais qui n'apparaissent pas comme étant de l'eau. Un autre exemple, c'est le sol. Le sol, c'est de l'eau. Un champignon, c'est de l'eau. Une tomate, c'est de l'eau. Mais si on parle eau, les gens vont penser que c'est l'eau du verre d'eau. Non, pour ça, je parle d'eau morphogénique. C'est-à-dire toute cette eau qui est autour de nous et qui crée la forme des objets qui nous entourent, des légumes, des fleurs, des arbres. Tout ça, c'est de l'eau. Et morphogénique, parce que il y a bien sûr beaucoup d'eau, mais il y a aussi quelques autres molécules qui vont permettre d'avoir les fonctions, de faire toute la diversité qu'on a sous nos yeux.
Alors, on est vraiment au cœur de la thématique de l'eau. Est-ce que vous connaissez les travaux de René Quinton?
Oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce chercheur?
René Quinton, pour moi, c'est le prototype d'un très grand scientifique. Alors, je suis heureux que vous en parliez, parce que si vous parlez René Quinton, par exemple, vous dites Albert Einstein, comme ça, dans la rue, on va vous dire, ah oui, un physicien. Vous dites René Quinton, les gens vont vous regarder avec des gros yeux. Mais pourtant, il faut savoir qu'à son époque, René Quinton était qualifié du nouveau Darwin français. Il était extrêmement populaire. Et pourquoi il était populaire? Parce qu'il avait développé cette idée que la vie multicellulaire, celle qu'on connaît, nous, mais tout ce qui fait de plusieurs cellules, est née en fait dans les océans. Et donc, de fait, on retrouvait la composition chimique. Si on prend notre sang, par exemple, sa composition chimique relative, pas absolue, hein, mais relative, est à peu près la même que celle d'une eau de mer. Et donc, ça, c'est l'idée qu'on conserve notre milieu. On est né dans la mer en tant qu'espèce multicellulaire. Eh bien, on va retrouver ce milieu marin. Et il avait créé des dispensaires pour traiter des tas de maladies en injectant de l'eau de mer, soit en isotonique, soit en hypertonique. Ça dépendait des pathologies. Et grâce à ces dispensaires, il pouvait soigner des maladies avec un coût qui était quasi nul, parce que c'est de l'eau de mer. Hein. Donc, vous avez juste, par contre, à être très rigoureux sur le prélèvement. Il faut la prélever dans des conditions très, très strictes pour avoir ses propriétés. Et la grande idée, c'était que, bien sûr, c'est de l'eau. Mais c'est de l'eau qui est passée par un système vivant qui est le plancton. C'est-à-dire, c'est de l'eau qui a été en fait avalée par un être vivant et recrachée. L'eau de mer, c'est ça. Et vous avez cette très belle chanson de Renaud qui dit que la mer, c'est dégueulasse parce que les poissons, ils baissent dedans. Bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un milieu biologique, actif. C'est une eau qui est ce qu'on appelle informée par de la vie. Et donc, quand vous la prenez, quand vous prenez vos minéraux, vous manquez de minéraux et que vous prenez vos minéraux sous forme d'eau de mer de Quinton, bah c'est super, on peut faire des tas de choses intéressantes.
En fait, j'avais vu une vidéo donc, de René Quinton dans les archives qui expliquait qu'il avait, bon, il faisait des expériences avec des animaux, un chien qui était très, très malade et il l'avait saigné à blanc et il avait remplacé son sang par du plasma marin et au bout de quelques temps, l'animal s'est très vite rétabli et il était en forme. Et bon, il a vécu après plus de 5 ans. Bon, il a eu un accident, mais enfin, un accident renversé par une voiture, je crois. Mais les propriétés sont incroyables. Comment vous expliquez ce processus? Qu'est-ce qui s'est passé?
Le problème de ça, c'est que c'est une histoire un peu ancienne. Moi, je n'ai pas connu le chien, donc j'aurais aimé le connaître. Mais par contre, pour les gens qui ont des douleurs, vous savez, les cartilages qui se détruisent et qui donnent ce qu'on appelle l'arthrose. Si vous faites de l'injection d'eau de mer de quelqu'un, vous faites revenir les cartilages. Autrement dit, vous évitez l'opération chirurgicale. Et ça, par contre, il y a des tas de gens qui le font et ça marche très bien. Donc ça, on peut le vérifier. Alors pourquoi ça marche? Ça, c'est là où ça devient, pour moi, intéressant. C'est qu'on rentre dans le fait que l'eau n'est pas un produit chimique. L'eau est une substance qui peut mémoriser des informations. Parce que si vous n'avez pas cette propriété de mémoriser des informations, vous ne pourrez jamais expliquer l'expérience de René Quinton, pourquoi ces injections d'eau de mer sont très importantes. Parce que, comme je vous l'ai dit, une eau de mer de Quinton, elle est prélevée dans ce qu'on appelle un vortex planctonique. Et donc, elle est informée par tout ce plancton qui a mis sa signature électromagnétique à l'intérieur de l'eau. Et donc, quand vous prenez cette eau, vous récupérez bien sûr l'eau, mais aussi cette signature électromagnétique de vie. Parce que n'oubliez pas que le plancton, c'est la base de toute la chaîne alimentaire. S'il n'y avait pas de plancton, il n'y aurait pas de fleurs, il n'y aurait pas de plantes, on est à la base de tout. Et donc, vous prenez cette eau qui est informée par une information vitale d'une qualité extraordinaire. Et donc, il ne faut pas être surpris si ensuite, cette eau va avoir des effets biologiques. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça n'a rien de mystérieux. Il y a des signaux électromagnétiques qui sont mémorisés dans ce type d'eau. Et ces signaux électromagnétiques vont interagir avec nos propres signaux électromagnétiques, puisqu'on est fait d'ions et d'eau. Donc, on émet aussi des champs électromagnétiques et on peut guérir en utilisant l'électromagnétisme et non pas un produit chimique comme un médicament, de l'aspirine ou je ne sais quoi.
Est-ce qu'on peut dire que le plasma marin est un deuxième sang?
Ben d'ailleurs, je crois que dans certains hôpitaux, quand ils sont en manque de sang, ils ont recours à cette technique.
Au sujet des ampoules, vous parlez des ampoules de plasma marin, c'est ça, Quinton? Est-ce qu'on les trouve, ces produits, aujourd'hui
Oui.
ou pas?
Alors, normalement, on ne peut plus les appeler plasma. On doit dire eau de mer de Quinton.
Ah, eau
Parce
de
que,
mer.
oui, parce que plasma, on le disait à l'époque où on faisait ça en intraveineuse. On prenait
Ouais.
de l'eau de mer, on la diluait évidemment pour la ramener à l'isotonicité du sang, et ensuite on injectait ça en intraveineuse, d'où la sensation plasma. Mais dans les années 40-50, je pense que vous savez que injecter comme ça un produit qui vient de la mer, il y a le dogme pasteurien qui est qu'il y a toujours des méchantes bactéries qui nous veulent plein de mal. A dit, ah non, 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 il faut chauffer. Il faut chauffer les produits, il faut les, comment on appelle ça, les stériliser.
Stériliser.
Les stériliser, voilà. On ne peut pas injecter quelque chose qui n'est pas stérilisé. Et pour stériliser, c'est la méthode de Pasteur, on doit chauffer à 60, 70 degrés. Le problème, c'est que si vous chauffez l'eau de mer de Quinton à 60, 70 degrés,
N'y a plus rien.
il n'y a plus rien.
C'est
Donc là, on
ça.
avait un énorme problème, et c'est pour ça qu'on a enlevé le mot plasma, et on doit parler d'eau de mer de Quinton. Comme ça, au moins, il n'y a plus d'ambiguïté, puisque c'est interdit hein, aujourd'hui d'injecter ça en intraveineuse. On peut encore le faire en ce qu'on appelle en intramusculaire. Ça, c'est le principe où on vous soigne les articulations avec une pieuvre, des petites aiguilles, on injecte de l'eau de mer, mais en intramusculaire, plus en intraveineuse. Voilà, et donc, cette eau de mer, elle a des propriétés oui, absolument extraordinaires. Parce qu'elle est informée par ce qui est le plus vital sur cette planète, qui est le plancton.
Et cette eau de mer est disponible à la vente en France?
Alors, il y a, oui, trouver ça dans... Alors, il y a plusieurs marques. Après, le seul souci qu'on a, c'est que le protocole de prélèvement qu'a établi René Quinton doit être respecté à la lettre. Et hélas, il y a des produits qui vont simplement prélever de l'eau de mer. Ils ne respectent pas le protocole. C'est-à-dire 4 degrés Celsius dans un vortex planctonique et ensuite garder la température, la chaîne du froid tout le long jusqu'à l'embouteillage. Donc, c'est des produits qu'on achète en général en boutique bio. Et disons qu'il y a deux marques qui sont sérieuses. Je ne vais pas les donner parce que le but n'est pas de faire de la publicité. Pour...
Non, mais à la limite, vous pouvez les mentionner, non?
Bah, c'est facile puisque c'est toujours écrit Quinton.
Ah, Quinton, d'accord.
Ouais. Voilà, donc il y a Eau de Mer de Quinton. Donc, il y a un laboratoire qui est très bien à Alicante. Donc, vous regardez sur les bouteilles. Alors, eux, ils vendent en ampoule. Alors, ça, c'est aussi c'est quelque chose qui est intéressant, l'ampoule, parce qu'on peut utiliser l'eau de mer de Quinton. Non, on peut la boire, bien sûr, d'où l'ampoule, mais on peut aussi utiliser l'ampoule comme des aiguilles d'acupuncture, parce que c'est de l'information qui est amenée, et donc, on peut aussi traiter des pathologies sans boire l'ampoule en utilisant les côtés pointus. Et il y a une deuxième société qui, elle, vend ça en bouteille de 2-3 litres. Donc, c'est quand même beaucoup plus intéressant quand vous devez faire une grosse consommation. Là, je pense essentiellement à ceux qui font de l'ultra-run. Si vous regardez, Julien Corrier, qui est un Français, vient de remporter les 190 km de la course Rarámuri au Mexique. Et... quand vous faites 190 km en 25 heures sans vous arrêter, si vous n'avez pas l'eau de mer de Quinton pour vous amener les minéraux, vous n'y arrivez pas. Et donc là, on a besoin de grosses quantités. Et donc là, il y a un autre fournisseur qui est bien, qui permet d'avoir des bouteilles un petit peu plus grandes, parce que les ampoules sont très chères. Et si on veut en avoir beaucoup, bah ça, c'est un sacré budget.
Et du coup, on peut raisonnablement dire que la marque Quinton, c'est un nom qui est déposé c'est-à-dire que les non. Personnes qui enfin les fabricants qui utilisent le nom Quinton doivent respecter le protocole.
Si vous voulez, je vous montre les deux. Je vais les chercher, je les ai là. Mais après, je veux pas qu'on m'accuse de faire de la publicité.
Oui.
Vous voulez que je les montre?
Oui, si vous voulez, vous pouvez les montrer.
Ah, mais c'est pas si vous voulez. Donc voilà les deux produits que moi je recommande, qui sont bons.
Voilà, Quinton hypertonique, d'accord.
C'est le produit en ampoule.
Et qu'on trouve principalement en magasin bio, c'est
ouais,
ça?
Oui, en magasin bio ou sur Internet. Hein. Vous voyez, c'est des ampoules comme ça. Donc ça, c'est en Espagne, à Alicante. Ils ont fait d'ailleurs un très joli livre qui retrace la vie de René Quinton, très bien illustré. Et l'autre produit, voilà.
Si Aquacells.
Si Aquacells. Vous voyez, là, c'est plus l'ampoule. Donc ça, c'est pour les sportifs, ceux qui doivent boire de grandes quantités d'eau et qui se ruineraient avec des ampoules.
D'accord. La boîte…
J'utilise ça aussi pour mon eau de boisson, pour faire ce qu'on appelle la dynamisation, c'est-à-dire que je filtre mon eau avec ce qu'on appelle un osmoseur. Et ensuite, je rajoute quelques millilitres d'eau de mer de Quinton pour lui donner cette information de vitalité et quelques minéraux qui ont été retirés par le processus de filtration.
D'accord. Alors, tout ça est très, très intéressant. pardon. Vous vouliez parler de la conscience. Dans quel contexte la conscience intervient dans toutes ces thématiques?
Alors, quand j'ai démarré, sincèrement, ma carrière scientifique, je ne savais pas du tout que j'allais aller là. Parce que moi, j'étais chimiste, devais étudier des molécules dans l'eau et savoir qu'un jour, je me préoccuperais de la conscience. Ça, c'est vraiment l'intérêt de la recherche. On ne sait jamais où on va. Alors, comment ça s'est fait? Ben, en fait, ça, c'est aussi une conséquence de travail avec Luc Montagnier. Quand Luc Montagnier a voulu un petit peu populariser ses résultats, il y a eu comment on appelle ça, un vidéaste qui s'appelle Christian Manil. Christian Manil a réalisé un documentaire qui a été diffusé sur France 5, donc une chaîne tout à fait classique, enfin, de France Télévisions. Ça a été diffusé en 2014, je crois, qui s'appelait « On a retrouvé la mémoire de Lou ». Un documentaire de 50 minutes qui explique tout le travail de Luc Montagnier en détail et où j'interviens pour donner les explications de cette expérience. Et après avoir enregistré ce documentaire en 2014, donc, le réalisateur Christian Manil me dit « Mais tu sais, toi, tu as l'air de t'intéresser à des tas de choses. Là, il y a une journaliste qui revient de Mongolie et qui a découvert qu'elle était chamane. Donc, chamane, ça veut dire qu'elle est capable de faire ce qu'on appelle une transe, de changer son état de conscience. Et elle me dit, elle cherche des scientifiques pour discuter, de comprendre ça. Alors, moi, je dis oui, pourquoi pas. Donc, j'ai rencontré, la dame s'appelle Corinne Sombrin, quelqu'un qui est très connu. Elle a raconté son histoire. Il y a même eu un film au cinéma qui est passé il y a 2-3 ans, Un monde plus grand que moi, qui raconte son histoire, avec Cécile de France qui joue le rôle de Corinne.
Vous avez dit
Donc, je
comment, Corinne
comprends.
Sombrin?
Sombrun, Sombrun. Donc, je rencontre Corinne et quand elle me parle de ses expériences chamaniques, j'ai l'impression de me retrouver dans mon livre de physique quantique. C'est-à-dire tout ce qu'elle décrit quand elle est en état de transe, donc pas avec son état normal, correspond exactement à ce qu'on verrait s'il n'y avait pas ce filtre qu'est le cerveau qui nous coupe en fait du monde des vibrations et des couleurs de la physique quantique. Donc là, ça a fait tilt. Et après, je me suis dit, mais si on est fait d'eau et s'il y a ces états modifiés de conscience, est-ce que ce ne serait pas l'eau qui finalement générerait la conscience. La conscience ne serait-elle pas liée au fait qu'on ait des membranes hydratées? Et c'est là où j'ai tout de suite compris qu'effectivement, si vous regardez le cerveau, qui est quand même un des endroits où la conscience se manifeste de façon évidente, c'est quoi un cerveau? Ben, ce n'est que de l'huile et de l'eau, avec des membranes. Et donc, effectivement, on a cette idée que partout où il y a des membranes et de l'eau, il y a de la conscience. Et c'est après ce que j'ai développé. Toujours pareil, comme je suis scientifique, je pars de l'idée, puis ensuite je mets un petit peu de mathématiques là derrière. Et pour expliquer ce qu'était la vie et la conscience, j'en suis arrivé à l'idée que nous ne vivons pas dans un espace à quatre dimensions. Ou du moins, si on reprend la procédure qui a permis à Albert Einstein de découvrir que le temps était une dimension, comme l'espace, mais que ça faisait un continuum à quatre dimensions. Si on reprend la même procédure mathématique, on arrive à la conclusion, grâce aux propriétés de la lumière, que nous sommes dans un espace à six dimensions, les quatre qui avaient été découvertes au XXe siècle, une nouvelle propriété qui est ce qu'on appelle l'invariance d'échelle, donc le fait qu'on peut exister à différentes échelles. Par exemple, je peux exister en tant qu'embryon dans le ventre de ma mère, où je peux exister en tant que personne vivante de 80 ans. Je suis toujours le même. Par contre, je n'ai pas la même taille. Donc, il y a cette idée qu'on a cette dimension d'échelle qui est importante et qui m'a amené après à travailler avec Jean Toby et la musique des plantes. Et puis, la sixième dimension qui est la conscience. C'est-à-dire, est-ce que la physique quantique nous apprend qu'un objet, en fait, a deux états? Soit il existe en tant qu'objet visible, je le vois avec mes sens, soit il existe en tant que fonction d'onde, c'est-à-dire onde de probabilité, à ce moment-là, je ne le vois pas. Et donc, on est dans ce qu'on appelle, il est virtuel. Mais même s'il est virtuel, il est là quand même. On ne le voit pas, mais il est là en tant que potentialité. Et là, on retrouve une très vieille théorie d'Aristote, c'est ce qu'on appelle la potentialité ou la réalité. Et donc ça, c'est la sixième dimension de conscience qui nous permet d'exister en tant qu'être virtuel. Donc ça nous permet d'expliquer toutes les expériences après la mort que j'ai eu la chance de faire. J'ai eu la chance de faire ce qu'on appelle une NDE. Donc quand vous faites une NDE, votre cœur s'arrête. Et comme le cœur s'arrête, normalement, il n'y a plus de conscience. Sauf que moi, mon cœur s'est arrêté, mais j'étais toujours conscient de ce qui se passait. Donc, ça nous permet de vivre au-delà de la mort, pas sous forme matérielle, mais sous forme virtuelle, champ d'information, ou alors on vit dans des membranes cellulaires hydratées avec de l'eau, et à ce moment-là, on est ce qu'on appelle un être vivant visible. Voilà, donc ça a été la rencontre avec Corinne, découverte de la transe, ces états modifiés de conscience, et aujourd'hui, c'est quand même important de le dire, l'université a ouvert en septembre le premier diplôme universitaire de transchamanique, de transcognitive auto-induite, suite aux travaux de Corinne, et il y a à peu près plusieurs labos dans le monde qui commencent à s'intéresser à ça de près. Donc c'est un sujet qui commence à rentrer en science.
Et vous parliez de NDE, est-ce qu'elle a été provoquée ou c'est suite à un accident? Parce qu'on vous
Ah
sait
non,
qu'il y a plusieurs cas de figure.
bon, si on va être gentil, c'était une erreur médicale.
D'accord.
Vous rentrez dans un bloc opératoire, les gens ne sont pas professionnels, vous rentrez, tout devrait bien se passer, simplement vous faites un arrêt cardiaque. Donc, ça, ce n'était pas du tout prévu.
Passons à l'électromagnétisme. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question?
Alors, plusieurs choses. La première chose, c'est la relation avec le phénomène de conscience, puisque c'est grâce aux équations de Maxwell que j'ai pu découvrir qu'on vivait dans un espace à six dimensions, d'où la conscience. La lumière, les équations de Maxwell, de l'électromagnétisme nous révèlent ça. Donc ça, c'est quand même un point très, très important. L'autre chose qui est importante, c'est que nous fonctionnons en fait en tant qu'êtres vivants beaucoup plus par la physique électromagnétique que par la chimie. Ou si vous préférez, toutes les activités chimiques dans notre corps sont des conséquences d'activités électromagnétiques. Et donc ça, c'est par contre une information extrêmement nouvelle. Et en fait, ça se comprend très bien parce que nous sommes faits de membranes qui baignent dans l'eau salée. Et chaque fois que vous avez dans cette membrane un canal qui s'ouvre, vous avez un ion qui passe du milieu extracellulaire au milieu intracellulaire. Et c'est là où interviennent les équations de Maxwell. C'est que toute charge accélérée émet un champ électromagnétique. Comme de fait, nous sommes faits d'ions et d'eau, ça veut dire que nous émettons des ions électromagnétiques. Alors, on les connaît très bien, en fait. On les émet ici, au niveau du cerveau. Ça s'appelle les électroencéphalogrammes. On les émet ici, au niveau du cœur. Ça s'appelle les électrocardiogrammes. Et on les émet au niveau des intestins. Ce sont les électrogastrogrammes. Donc, nous sommes des émetteurs électromagnétiques. Et quand on prend en compte cette dimension, qu'on fonctionne à l'électromagnétisme, évidemment, l'électromagnétisme n'est pas raciste. C'est-à-dire qu'il y a l'électromagnétisme que nous créons pour vivre à l'intérieur de nous. Il y a l'électromagnétisme que l'eau utilise à l'intérieur du vide quantique pour mémoriser de l'information. Et il y a de l'électromagnétisme qui vient de l'extérieur par ce qu'on appelle les antennes relais. Et le Wi-Fi, enfin bref, toutes les technologies de l'information que l'homme a développées. Tout ça, c'est de l'électromagnétisme. Et une fois que les ondes se rencontrent, elles se mélangent. Donc c'est là où on a un énorme souci aujourd'hui. C'est que ce brouillard électromagnétique qui est généré par toute l'activité électronique, les objets connectés, la 4G, la 5G, vient se surimposer à notre électromagnétisme interne. Et quand ça se superpose, ça peut superposer pour le meilleur, mais pour le pire aussi. Et on peut déclencher des pathologies. Et donc là, on a un défi à relever, que l'être humain aura à relever dans les années qui viennent, c'est comment vivre avec des technologies sans fil, sans remettre en cause notre électromagnétisme interne. Et non seulement notre électromagnétisme interne, mais aussi l'électromagnétisme qu'utilisent les bactéries, les arbres, les abeilles. Tout ça, ça fonctionne, la nature fonctionne avec l'électromagnétisme. Et nous, on arrive avec nos gros sabots, on envoie des informations sur toutes les bandes de fréquences, et après on dit, tiens, les arbres sont malades. Ah ben les abeilles, elles ont un problème. Ah puis nous, on a des maladies de civilisation qui n'existaient pas il y a quelques années. Comment on va gérer tout ça? Et quand on voit le niveau de conscience de l'homme politique, on a des soucis à se faire, parce que pour eux, il n'y a pas de problème. Si on en croit les opérateurs de téléphonie mobile, on peut vous irradier en permanence sans aucun problème. Et le pire, c'est évidemment le passage à la 5G, qui va se faire de façon complètement incontrôlée. Je parle d'un point de vue biologique, hein, pas d'un point de vue technique. D'un point de vue biologique, on va balancer, on va utiliser des fréquences qui sont, par exemple, de l'ordre de 60 GHz. Et 60 GHz, c'est une fréquence que l'être humain n'a jamais connue. Pour la bonne raison, c'est qu'elle est filtrée par la couche d'ozone. Donc, la vie, depuis qu'elle existe sur Terre, la vie aérobie, n'a jamais connu cette fréquence. Et nous, avec notre technologie, on va irradier toute la planète sur cette fréquence. Et bien, si vous êtes capable de savoir quelles vont être ses conséquences, chapeau. Là, on est dans un brouillard total. Ça peut se passer très mal.
Alors justement, vous parlez de la 5G. On a vu qu'ils ont profité du confinement pour déployer massivement sur le territoire la 5G. On voit bien qu'il y a, il y a des raisons cachées. Est-ce que vous pensez que on a beaucoup d'informations qui indiquent que ces fameuses injections contiennent des éléments qui peuvent être captés par la 5G? Vous en pensez quoi?
Je suis assez sceptique. Mais bon, après, je ne suis pas très compétent en électronique. Hein, donc, moi, j'ai un petit souci. Hein, c'est qu'il y a une relation très simple entre ce qu'on appelle la longueur d'onde et la fréquence. Et la longueur d'onde, c'est ce qui vous permet de calculer la taille de votre antenne. Si vous prenez une fréquence de 60 MHz, GHz, pardon, qui est la fréquence qu'il y aura pour les nouvelles 5G, ça fait quand même des longueurs d'onde qui sont de l'ordre du millimètre. Et des millimètres, il faut injecter dans les gens des antennes qui font quelques millimètres. J'ai un peu de mal à voir comment c'est possible. Bon, après, on m'a dit qu'il y a les antennes fractales. Bon, peut-être, mais c'est une technologie que je ne connais pas. Donc là, par contre, je suis assez sceptique sur ces problématiques. Moi, je pense que les injections qui ont été pratiquées étaient en fait une expérience à grande échelle pour préparer ce qu'on appelle le transhumanisme. C'est-à-dire savoir comment allait réagir un être humain, bien ici d'être humain, expérience humaine, lorsqu'on injecte des ARN et des ADN étrangers. Parce que derrière se cache le transhumanisme, c'est-à-dire cette idée que vous pouvez prendre un enfant. Et puis, si vous voulez que ce soit un Mozart, bah, avec les fameux ciseaux CRISPR-Cas9, vous allez couper les gènes et lui mettre un gène de musicien. Vous pouvez après mettre un gène de soldat, un gène de scientifique. C'est cette idée-là qu'on est en train de tester avec ces produits injectables. Qui ait des liens avec la 5G, je pense que c'est plus un hasard. C'est qu'on a ce hasard que aussi les gens veulent des objets connectés. C'est-à-dire qu'on veut que quand je rentre dans la pièce et que je dis à mon frigo « donne-moi une bière », il faut que le frigo, il ait prévu que la bière soit dans le frigo. C'est-à-dire qu'il ait passé commande si jamais il n'y avait plus de bière. Et ce monde des objets connectés coïncide avec ce monde des manipulations génétiques. Et c'est là où on est à la confrontement de ces deux choses-là. Et est-ce que c'est concerté ou est-ce que c'est indépendant? Ça, je n'en sais rien. Du moins, il est trop tôt pour moi pour savoir. Mais par contre, oui, il y a ces deux mondes, le monde de l'électromagnétisme et le monde du génie génétique qui se rencontrent et qui, si on prend ça sur le papier, auraient les moyens, effectivement, de se parler et de faire des transhumains. Mais, je vous dis, moi, je n'ai pas encore de preuves indubitables qu'on en est là.
On a encore deux thématiques à traiter, l'homéopathie et le fameux agent infectieux. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'homéopathie? Bon, alors, moi, je connais bien l'homéopathie parce que je me suis toujours traité avec ça. Je sais que c'est très efficace. Il y a eu beaucoup de diabolisation de l'homéopathie. On voit qu'elle est de moins en moins remboursée et qu'il y a beaucoup de pression pour la faire sortir du système. On voit vraiment quand même qu'il y a une emprise énorme, inouïe des compagnies pharmaceutiques pour imposer l'allopathie. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ça c'est. Alors, faut savoir que l'homéopathie est une médecine qui date de plus de 200 ans. Donc, ça fait 200 ans qu'on essaye de la faire disparaître. On n'est toujours pas arrivé. Et d'ailleurs, je vous rappelle que si en Europe, elle va probablement disparaître sous le coup de l'industrie pharmaceutique, qui, elle, fait tout pour que ça disparaisse, elle est bien vivante en Inde. Elle sera bien vivante en Afrique. Donc, ce n'est pas parce qu'elle va disparaître en Europe qu'il n'y aura plus d'homéopathie. Parce qu'il y a des pays comme l'Inde ou l'Afrique qui ne peuvent pas se passer de l'homéopathie pour la bonne raison qu'ils n'ont pas les moyens de se payer des médicaments au prix où nous, on les achète. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'il y a eu dans les années 90 cette, on va appeler ça comme ça, une perversion de la médecine. C'est-à-dire que jusqu'en les années 90, qu'est-ce qu'on demandait à un médicament? Là, on demandait qu'il vous soigne. C'est-à-dire qu'on prenait un produit chimique, on faisait des études cliniques, et puis on regardait avec un groupe témoin, un groupe qui ne prenait pas le produit, on regardait si c'était efficace. Mais en 1990, est apparu ce nouveau concept qui a pour conséquence qu'on va faire disparaître l'homéopathie en Europe, qui est l'EBM, l'Evidence Based Medicine, ou si vous préférez en français, la médecine fondée sur les preuves. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas que les gens guérissent, il faut aussi comprendre pourquoi ils guérissent, c'est-à-dire les mécanismes qui sont mis en jeu. Et là, par contre, c'est des techniques qui sont extrêmement inhumaines, parce que ça suppose de faire ce qu'on appelle des essais randomisés, placebo en double aveugle. Et si vous ne faites pas ça, on vous dénie le droit de pouvoir soigner, sous prétexte que vous n'avez pas fait cette étude scientifique, ou quand même, il faut le savoir, vous prenez deux groupes de gens, un groupe qui est malade et vous n'avez rien donné, donc ils vont rester malades en fait, et un autre groupe où vous allez donner un produit qui peut les guérir. Sur un plan éthique, c'est lamentable. Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous avez un produit qui peut soigner et que vous ne le donnez pas à une personne qui est malade, c'est criminel. Et pourtant, c'est comme ça que la médecine fonctionne aujourd'hui. Si vous n'avez pas fait ça, cette action criminelle de démontrer que quand vous ne soignez pas les gens, ils meurent, eh bien, vous n'avez pas le droit d'être à l'appellation médecine. Et c'est pour ça que l'homéopathie, on a du problème actuellement, parce qu'elle ne passe pas du tout. Cette EBM est complètement orthogonale à sa pratique médicale. Et donc, comme il y a des gens qui ont décidé que tout ce qui n'était pas EBM n'était pas de la médecine, c'était du charlatanisme, on interdit, on dérembourse, on dit que c'est n'importe quoi. Alors que quand même, vous l'avez mentionné tout à l'heure, j'ai eu quand même des prix pour mon travail sur l'homéopathie. Ça marche depuis 200 ans. Et on a aujourd'hui le mécanisme. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire qu'on sait comment ça marche, mais on a des idées. On sait maintenant qu'un remède homéopathique, ce n'est pas rien. Il y a de la matière dans un remède homéopathique. On sait qu'il y a de l'électromagnétisme. On a la théorie des domaines de cohérence que j'ai développée qui permet d'expliquer comment cette information qui est mémorisée dans l'eau va affecter le corps. On sait que ça agit sur l'épigénétique, c'est-à-dire comment le remède homéopathique informe un gène et lui dit de s'activer ou de s'inactiver. Donc, je veux dire, on est quand même avec quelque chose qui devient scientifique. Et que ça soit traité de charlatanisme sous prétexte que ça ne satisfait pas aux essais randomisés en double aveugle, c'est un peu fort de café, surtout quand on a fait beaucoup de statistiques et que quand vous faites de la statistique, vous savez qu'il y a toujours des seuils à définir et que les seuils, c'est les hommes qui les fixent, ce n'est pas la science. Un seuil, il est toujours fixé pour une raison pratique. Et donc, on en est là. Heureusement qu'il y a l'Inde et l'Afrique pour continuer à soigner par homéopathie. Et même si on arrête en Europe, ça continuera dans ces pays-là.
Alors, poursuivons sur cette dernière thématique de l'agent infectieux. Qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à cette situation ?
Que j'ai été scandalisé, que la science est en train de perdre ses derniers... Si vous avez regardé un petit peu ce qui s'est passé au XXe siècle, la science en a pris un sacré coup quand même, parce qu'il y a eu la bombe atomique. Donc maintenant, on sait tuer les gens en une fraction de seconde et à l'échelle de centaines de milliers de personnes. Il y a eu toute la pollution chimique qu'on voit de nos jours, le fluor, toutes les saloperies qu'on nous met dans l'alimentation, ça c'est de la chimie. Il y a tous ces scandales de l'industrie pharmaceutique, je vous en passe, le Mediator, c'est-à-dire qu'on vend des produits qui sont en fait très toxiques et on ne contrôle pas du tout la manière dont c'est fait. Et là vient se rajouter donc les problèmes liés à ce que j'appelle moi des mensonges. Parce que, sans être dogmatique, un vaccin, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on vous donne pour vous éviter de tomber malade. Et aujourd'hui, on vous injecte des produits et vous tombez malade. Comment on peut appeler ça des vaccins? Ça ne peut pas être un vaccin, ça peut être ce que vous voulez. Et ça, c'est nouveau, cette perversion du langage. C'est-à-dire que vous appelez d'un nom quelque chose qui n'est pas un nom. Une chose, vous l'appelez par un nom qui est l'inverse de ce qu'elle est. Et là, on tombe dans ce qu'on appelle, moi que j'ai bien connu dans ma jeunesse, c'était les livres d'Orwell et d'Aldous Huxley, c'est-à-dire cette société où, en pervertissant le langage, vous pouvez faire passer à peu près n'importe quel message. Parce qu'évidemment, la vaccination, quand on regarde ça avec du passé, 100 ans d'expérience, mais ce ne sont pas des produits génétiques, ce sont des molécules chimiques. Et là, pour une fois, on vous injecte de l'information, pas de la molécule. Donc ça, c'est inquiétant, tout cet aspect de perversion du langage qu'on a assisté. Et même quand on vous a dit qu'on vous injecte un ARN messager, c'est faux, parce que ce n'est pas un ARN messager, c'est un ARN messager modifié au niveau des bases pour qu'il soit plus stable. Donc c'est un produit nouveau. Personne ne sait ce que ça va faire. Enfin, du moins, on a des idées. Mais quand on voit que toutes les mesures de sécurité, tous les freins qui avaient été mis sur les vaccins ont sauté, mais ils ont sauté en quelques mois. On a fait des expériences avec des produits qui, normalement, auraient dû attendre 20 ans pour être utilisés. Et là, en quelques mois, tout d'un coup, tout ça, ça a été mis sur le marché, développé, avec des profits financiers absolument scandaleux. On est dans un genre où la science et la finance se mélangent. Et ça, c'est pas bon. La science doit rester la science, la finance, elle a aussi son intérêt, mais quand les deux se mélangent, c'est une catastrophe. Donc alors, ça, c'est Oui, allez-y, oui.
Oui, je voulais rajouter quelque chose.
Oui.
Je vous écoute.
Ah non, c'est vous qui voulez
rajouter. Alors, on arrive à la fin de cet entretien. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces différentes disciplines? Qu'est-ce qui peut potentiellement se passer? Quels sont les obstacles? On a bien compris que certains obstacles sont la science elle-même et un certain nombre de scientifiques qui sont dans le dogmatisme. Il y a évidemment les pouvoirs financiers et puis l'industrie pharmaceutique qui fait son bras de fer depuis déjà assez longtemps avec la médecine allopathique. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution potentielle si on revient un petit peu à la raison?
Alors, en Europe, soyons plus général. Dans ce qu'on appelle les pays occidentaux, c'est-à-dire l'Europe, États-Unis, pays à haut revenu. Là, je suis très pessimiste, parce que ce qu'on a vécu là, je pensais que c'était impossible. Donc, voilà, je suis très pessimiste. Par contre, ce qui se passe dans les pays à bas revenus, donc comme je disais, l'Afrique ou l'Inde, là, je suis très optimiste. Parce qu'en fait, ce sont eux qui vont nous montrer la voie à suivre. De deux raisons, parce qu'ils sont plus nombreux que nous, et donc finalement, il y a toujours cette loi du plus grand nombre, et surtout, si vous allez en Afrique, par exemple, et que vous regardez comment on soigne les gens, ou informés, ils n'ont pas les moyens d'avoir des médicaments. L'homéopathie, c'est encore trop cher pour eux. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent de l'eau, et ils ont une pensée positive, et après ils donnent ça, et les gens guérissent. La révolution viendra de là, de ces pays-là, qui vont nous expliquer que l'eau a des propriétés extrêmement intéressantes et si on arrive à bien que ces pays sortent de tous les conflits, parce qu'ils sont aussi des pays où ils ont beaucoup de ressources, donc on les pille en fait, si on arrive à sortir de ça, là oui, on aura un retour de bâton dans les pays civilisés qui sera très positif, parce que l'eau va revenir comme quelque chose d'intéressant et pas simplement un truc qui sert à nettoyer ses toilettes, quoi. Donc, on a quelque chose, un potentiel qui est énorme. Donc là, je suis assez optimiste parce que tout ce qui se passe en Afrique, en Inde, est assez intéressant. Au niveau mondial, il y a aussi cet espoir que je vois de plus en plus de gens qui font ce qu'on appelle des sauts de conscience, c'est-à-dire qu'ils prennent conscience tout d'un coup de ça, d'un tas de problèmes. Et c'est toujours, avoir un saut de conscience, c'est toujours positif. Parce que ça, il y a des gens qui comprennent maintenant que l'industrie pharmaceutique ne veut pas leur bien, mais simplement les rendre dépendants de produits chimiques. Il y a des gens qui commencent à comprendre que les hommes politiques, tout ce qui les intéresse, c'est leur réélection, leur pouvoir personnel, s'enrichir. Ce n'est pas des gens qui cherchent votre bonheur. Et donc, ce changement de conscience, si on est suffisamment nombreux à le faire, va aussi faire évoluer la société. Et là, c'est surtout les jeunes qui sont concernés. Parce que les gens comme moi d'un certain âge, on est un petit peu fossiles. Mais les jeunes, je les perçois très, très ouverts vers tout ce qui est conscience, tout ce que moi j'appelle le nouveau monde, qu'on voit en train de naître et qui, j'espère, gagnera par rapport à l'ancien monde qui, lui, on sait très bien, on vient d'en vivre 2 ans de l'ancien monde. Et voilà. Donc, optimiste.
Donc, effectivement, depuis l'émergence de l'agent infectieux, il y a eu un regain d'intérêt pour la médecine ancestrale. Est-ce que vous pensez que ça va se développer?
Oui, ça ne peut que se développer. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vrai dans toutes les lois de la nature. C'est que si vous allez trop dans une direction, on reviendra dans la direction opposée, ça s'appelle la force de rappel. Et là, je crois qu'on est allé vraiment beaucoup trop dans une direction. Donc, il y aura une force de rappel naturelle qui va se mettre en route. Le seul problème que j'ai, c'est quand. J'aimerais que ce soit demain. Mais personne ne peut savoir quand ça va se produire. Mais par contre, ça se produira, ça c'est sûr.
Marc Henry, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes à la retraite, mais vous avez été ex-directeur du laboratoire de chimie moléculaire de l'unité mixte de recherche du CNRS. Vous êtes aussi ingénieur chimiste. Vous avez consacré beaucoup de temps sur vos recherches sur la mémoire de l'eau. Et vous avez écrit plusieurs ouvrages qui sont disponibles, de l'information à l'exformation, l'eau et la physique quantique vers une révolution de la médecine, l'eau qui nous relie, l'homéopathie, la physique et la chimie des hautes dilutions, l'eau morphogénique.
On avait oublié, c'est la musique et la physique quantique.
La musique et la physique quantique, voilà, c'est noté. Merci beaucoup pour cette interview.
Merci, au revoir à tout le monde.